Bonjour et bienvenue dans ce numéro spécial Fréquence Diagonale. Eh bien, aujourd'hui, on va être avec un des très grands acteurs du jeu d'échecs en France. Un acteur qui a monté un des plus grands tournois de France, un tournoi mythique, un tournoi qui fait rêver les joueurs, qui fait rêver les joueurs non seulement français, mais aussi internationaux. C'est un tournoi coloré parce que toutes les images qui nous parviennent de ce tournoi depuis des années et des années, on va en parler longuement, eh bien, c'est beaucoup de drapeaux étrangers, beaucoup de joueurs internationaux. C'est un tournoi qui est extrêmement important, qui a contribué à former des générations de maîtres et de grands maîtres français, mais aussi donc étrangers et internationaux. Je suis avec Stéphane Gouvard et on va parler aujourd'hui du tournoi fabuleux de Capelle-la-Grande. Bonjour Stéphane.
Bonjour Stéphane et merci de me recevoir sur Fréquence Diagonale. C'est un plaisir de pouvoir discuter de la passion du jeu d'échecs et de l'Open de Capelle-la-Grande avec toi et l'ensemble des auditeurs.
Alors, on est très content, bien sûr, de t'avoir. C'est la première fois qu'on t'a sur Fréquence Diagonale. Tout d'abord, alors évidemment, avant de parler de Capelle, on va parler de Capelle 2016 parce que c'était une très grande édition, mais on parlera aussi de l'histoire de Capelle. Ça va être tout à fait fabuleux d'en parler avec toi. Puisqu'évidemment, il n'y a pas meilleur acteur de privilégié pour nous raconter ce grand tournoi. Mais d'abord, on veut savoir qui est Stéphane Gouvard en tant que joueur d'échecs. Alors voilà, le jeu d'échecs et Stéphane Gouvard, ça a démarré comment et qu'est-ce qui t'a pris de te mettre à jouer à ce jeu, quoi?
Bah, c'est une histoire de famille. Hein. C'est mon père qui m'a appris à jouer à l'âge de 4 ans et demi. Il était président du club d'échecs et il m'a appris à jouer ainsi que mes frères et sœurs. Et je suis le seul qui a accroché à ce formidable jeu. Donc j'ai commencé à 4 ans et demi tranquillement. Et premier tournoi, je m'en souviendrai toujours, c'était dans la mairie, la fabuleuse mairie de Tourcoing. C'était un tournoi jeune. C'était fabuleux. J'ai toujours en mémoire ce premier tournoi qui a vraiment lancé ma passion du jeu d'échecs. J'ai fait beaucoup de tournois jeunes avec le club de Capelle, hein, qui était un acteur majeur pour le développement des échecs dans le Nord, hein, où on a participé à beaucoup de semi-rapides, des Open aussi, hein, l'Open de Fourmies par exemple, qui était l'un de mes premiers tournois après Capelle en Open.
Ouais.
C'était une ambiance vraiment formidable, comme ils le disent maintenant, l'Open formidable. Et c'était là où j'ai commencé à faire mes armes de joueur d'échecs, modestement, à un niveau plus que modeste.
Et ça, c'est dans quelles années à peu près?
Alors, j'ai commencé, si je ne me trompe pas, vers 87 à vraiment faire des tournois. Mon premier tournoi est en 85 ou 86. Hein, ouais. Moi, j'étais jeune, mais à peu près là, j'ai commencé à jouer régulièrement des tournois à partir de 87. Et mon premier Open en 88.
D'accord. Et est-ce que tu as eu la chance de participer au championnat de France?
Oui. Alors, j'ai fait Montluçon, j'ai fait Rochefort, Romans-sur-Isère et Pau. J'ai fait 4 championnats de France en catégorie cadet et junior.
D'accord.
C'est un très bon souvenir.
Ah, d'accord. Ouais. Donc, oui, il faut le dire parce que, bon, évidemment, ce n'est pas forcément tous les joueurs qui ont cette possibilité d'aller jouer ce fabuleux championnat de France jeune, enfin, en tout cas la finale, hein, bien sûr. Il y en a un peu plus qui jouent les phases qualificatives, mais c'est évidemment des grands souvenirs quand on arrive à cette phase finale. Alors, et après, donc, tu as continué et tu as décidé de te lancer un peu dans l'organisation, c'est ça, de ce tournoi?
Oui, alors c'est devenu de fil en aiguille. C'est que à Capelle-la-Grande, on est des bénévoles, hein, comme un peu partout dans les échecs aujourd'hui, hein, et dans le monde associatif en général. Et donc j'ai suivi mon père, hein, bien sûr, avec ma mère qui était toujours dans les tournois, mais on a participé à beaucoup de tournois comme des franco-anglais, franco-allemands, franco-belges. On a fait aussi quelques semi-rapides, donc j'ai vite pris l'exemple de mon père d'être là à présent à mettre les jeux, à mettre tout en place, hein, et suivre du début jusqu'à la fin l'organisation des événements qui se faisaient à Capelle et où on allait bien sûr en toute amitié en Angleterre. L'Angleterre, c'est une grande histoire entre Capelle et le club du King's Head de Londres, puisque c'est le premier tournoi qui a été créé à Capelle à la création du club en 1980 et qui continue toujours. Donc c'est des expériences qui ont fait, et quand on est dans le monde du bénévolat, c'est soit on s'éloigne tout de suite parce que ça ne nous dit rien, ou alors ben, on a la fibre et on y va. Donc c'est en tant que joueur passionné du jeu d'échecs et à côté vouloir développer les différentes manifestations et voir toujours le sourire des gens. Et c'est ça qui est important pour moi dans le monde des échecs comme ailleurs, hein, dans ma vie de tous les jours. C'est vraiment le remerciement, c'est de voir les gens s'amuser et faire ce qui leur plaise, leur passion. Et le jeu d'échecs, c'est une passion vraiment formidable.
D'accord. Et alors, cet engagement dans l'organisation, est-ce que ça a diminué ton activité en tant que joueur?
Ah bah tout à fait, ça a vraiment diminué quand je suis rentré réellement dans le vif du sujet avec l'Open de Capelle.
Ouais.
Donc là où c'est de la grosse machine quand même, parce qu'il y a quand même toujours entre 500 et 650 joueurs, c'est environ entre 160 et 200 personnes prises en charge, le budget à trouver. Donc là j'ai commencé à jouer moins au niveau des échecs, je l'ai vu avec mon niveau hein, qui a commencé à baisser, même si j'étais pas très haut, il a baissé d'une centaine de points sans problème très rapidement. Et aussi bah, m'occuper, en fait j'ai plusieurs étapes, j'ai commencé à m'occuper des compétitions en 96. On avait plusieurs équipes hein, nationales, on avait trois équipes de nationales, on avait cinq équipes de régionales. Donc c'est moi qui mettais les équipes en place, donc je passais mon temps au téléphone à confirmer les équipes, à mettre en place tout ça. Je l'ai fait pendant 3 années en tant que ça. Après, je suis passé trésorier du club et par la suite vice-président en fait du club quand j'ai vraiment mis en place l'Open de Capelle en fait. Donc ça,
D'accord.
c'est à côté de ça. Après, j'ai mes fonctions à côté dans ma vie professionnelle ont fait que j'ai eu moins de temps pour jouer, mais on va dire que ce qui m'a tenu vraiment au contact du jeu d'échecs, hein, c'est l'organisation, et plus que jamais, je suis toujours resté en contact avec le monde des échecs par passion, et malheureusement très peu de temps pour jouer, mais j'essaie quand même de jouer une fois par an, un tournoi ou des parties par équipe pour dire de rester dans le bain.
D'accord. Et alors, est-ce que tu as aussi, puisque tu me dis, à un moment donné, donc tu es passé aussi vice-président du club, tu t'occupes des équipes, très bien. Est-ce que tu as eu envie aussi de faire des choses au niveau du département, au comité départemental, voire au niveau régional? Est-ce que ça t'a titillé cette histoire-là?
Non, je ne l'ai pas fait pour des raisons. On me l'avait proposé au niveau département. C'était Serge Veil qui m'avait proposé ça il y a 2 ans au comité départemental. Mais je n'avais pas le temps parce que j'ai des fonctions d'élu aussi à Capelle-la-Grande et au niveau de la communauté urbaine de Dunkerque. Et donc, c'était un peu, à l'époque, un peu compliqué pour moi de faire plusieurs choses. J'étais aussi des fonctions syndicales au niveau des dockers du port de Dunkerque, où j'étais le trésorier national. Et donc c'était compliqué de m'investir un peu plus. Aujourd'hui, j'ai abandonné mon statut syndical. Je continue au niveau de la ville de Capelle-la-Grande et de la communauté urbaine, mais j'ai beaucoup plus de temps pour me concentrer sur les échecs aujourd'hui.
D'accord, donc oui, d'accord. Donc tu as des périodes où tu as été un peu moins pris et enfin aujourd'hui où tu es un peu moins pris et puis des périodes où tu as été beaucoup plus pris par ailleurs. D'accord. Donc alors tu as parlé de ton classement, est-ce qu'on peut dire pour les auditeurs à peu près ton niveau Elo, est-ce que
Alors aujourd'hui, il est à 19,52.
Ouais.
Je suis monté à pas loin de 2100 à l'époque. Et là, je suis content parce que le dernier tournoi que j'ai fait, c'était à Montréal cet été, où j'ai gagné quand même 25 points. Donc, je suis, en tant que joueur d'échecs, gagné 25 points à Elo. C'est toujours bien pour un bon tournoi et quelque chose, un souvenir qui va me rester vraiment.
Oui.
Parce que Montréal, en plus, c'est une très belle ville et les échecs là-bas sont vraiment en plein développement avec un président de la Fédération québécoise qui est très motivé pour développer les échecs. Et j'en suis plus que ravi d'avoir été là-bas pour avoir vu un peu confronter la France et le Québec pour le développement des échecs. Et c'était très passionnant.
C'est passionnant. Qu'est-ce que tu as pu noter comme différence?
Ben, j'ai pu noter surtout qu'il prenait beaucoup d'exemples sur la France. Hein, sur le tournoi de Capelle, ils m'ont demandé beaucoup de poser beaucoup de questions sur comment on faisait à Capelle-la-Grande pour l'organisation. J'ai pu voir aussi que les joueurs professionnels et les joueurs amateurs sont, comment dire, là-bas un peu plus... c'est vraiment américain. Voilà, c'est vraiment... ils parlent français, mais ils ont un peu la fibre américaine plus que française, où le bénévolat est beaucoup plus rare là-bas qu'en France. Que c'est pas le monde associatif. J'étais surpris de voir que c'était la fédération qui gérait vraiment les tournois et non un club en particulier. Ce qui fonctionne très bien d'ailleurs, là-dessus j'ai rien à dire, mais j'étais surpris de cette confrontation des deux mondes et en même temps très intéressé pour savoir un peu leur idée pour développer les échecs. Et il y a quelque chose de bien, c'est que on est sur la même longueur d'onde. La seule chose qu'on veut, c'est le bonheur des joueurs d'échecs, c'est le maximum de tournois, de compétitions pour pouvoir jouer plus et avec des joueurs différents et de différents niveaux.
D'accord. Alors pour finir avec ton histoire de joueur d'échecs, là on a fait un petit détour par le Québec et c'est tout à fait fascinant ce que tu viens de nous raconter. J'ai envie aussi de te poser une question quant à ta dimension de spectateur du monde des échecs. Je suppose que tu suis les grands tournois internationaux ou peut-être en tout cas au minimum les championnats du monde. Est-ce que dans les... Voilà, dans les grands événements échiquiers internationaux, à part qu'Appel, bien entendu, mais est-ce que dans ces grands événements internationaux, il y a des moments dans ton histoire de joueur d'échecs comme ça qui t'ont marqué particulièrement ?
Oh bah, non, comme beaucoup de monde, moi, ce qui m'a marqué en tant qu'enfant, c'est le match dans les années 90, début 90, Karpov-Kasparov. Hein. Là, à Lyon, ça m'a vraiment marqué en tant qu'enfant. Et ça m'a vraiment... donner encore plus l'envie de jouer parce que ça se passait en France, qu'on parlait Kasparov-Karpov, vraiment des figures du monde des échecs. Après, ce qui m'a aussi, ce que j'ai vraiment beaucoup apprécié, c'est aussi l'avènement aussi de Magnus Carlsen, qui pour moi est très positif pour le développement des échecs et l'image du sport en général, du jeu d'échecs. La jeunesse, hein, l'ENSU, les grands tournois. Aujourd'hui, à l'époque, c'était Linares, hein, bien sûr. Bon, Wisconsin, Dortmund, c'était des tournois impressionnants. Mais aujourd'hui, c'est tout ce qui est London Classic, etc. Et, le circuit commence à devenir mûr, je dirais, parce que les joueurs de haut niveau jouent énormément. Qu'il y a eu une phase où il y a eu beaucoup de calme, je trouve, dans les tournois, où on les voyait jouer très peu. Et je trouvais ça dommage pour l'image des échecs, c'est de voir nos champions rarement en compétition. Mmh. Et là aujourd'hui, les voir pratiquement, je veux pas dire tous les deux mois, mais pratiquement dans un tournoi, que ça soit fermé, ou on commence à les voir aussi dans les tournois open. Hein, et ça, c'est pour moi, c'est très bon pour le développement. Mais l'avenue de Magnus Carlsen pour le monde des échecs, je pense que ça sera dans les années à venir. Un bon cheval pour le développement du jeu d'échecs, la montée de Maxime Vaché-Lagrave, hein, pour la France, hein, c'est magnifique, là, sa cinquième place mondiale, je pense qu'on peut le féliciter de tout son travail, parce que c'est énorme. L'équipe de France qui a un très bon niveau, c'est vraiment bien pour l'image et on les voit en compétition et ils commencent à vraiment compter et j'espère que dans l'avenir on les verra peut-être champions du monde par équipe. Mais le championnat du monde aussi, hein, par équipe est impressionnant. Les Olympiades, c'est quelque chose qui manque en France. Hein, une fois, ce serait bien de voir les Olympiades arriver une fois en France pour le développement du jeu d'échecs, car c'est vraiment passionnant aussi par équipe de voir que les meilleurs joueurs du monde savent jouer aussi en équipe et pas individuellement. Un peu comme la Coupe Davis au tennis, c'est ouais. Un parallèle qu'il faut prendre régulièrement, je pense, parce qu'on est dans le même type de sport, quoi, individuel, mais aussi l'esprit d'équipe. Mmh. Et c'est ça qui me marque aujourd'hui, c'est il y a plus... on va dire de cohésion, de travail d'équipe et pas seulement d'individuel, comme il y a pu avoir du temps de Kasparov où c'était que l'image, on voyait surtout l'image de Kasparov et les autres joueurs, on entendait moins parler. Ouais. Aujourd'hui, ça tourne plus, le turnover des meilleurs mondiaux tourne et ça, je pense que c'est très bon pour la suite parce que, un, ça montre que les joueurs, même s'ils restent un an, deux ans, trois ans au niveau mondial, ils ont leur chance. Grâce au nombre de tournois. Et je pense qu'aujourd'hui, le classement Elo a plus de valeur puisque les gens jouent aux échecs. Et ça, c'est très bon pour la base.
Oui, d'accord. Alors, deux autres points, un petit peu pour suivre ça. Tu as parlé des Olympiades, tu as fait le rapport à la Coupe Davis. Est-ce que Est-ce que tu penses pas que le format des Olympiades qui empêche de voir des demi-finales et des finales, des matchs couperets qui seraient beaucoup plus spectaculaires, est-ce que tu penses que ce format serait justement meilleur comme à la Coupe Davis où finalement on a une grande finale qui d'ailleurs dure 3 jours, hein. Des fois on dit que aux échecs c'est un problème parce qu'il y a la durée, mais non, même la Coupe Davis ça dure 3 jours et ça mobilise pourtant beaucoup d'audience, en tout cas pour les pays qui sont en finale, hein. Mais voilà, est-ce que tu penses pas que le format pourrait être amélioré, peut-être avec la partie open plus raccourcie, et puis on qualifierait les meilleures équipes dans des matchs à coup près où la France pourrait arriver en finale par exemple un jour, ou même en demi-finale, même si elle perd, c'est quand même un match plus intéressant à suivre qu'aujourd'hui un championnat où on a du mal à savoir qui va gagner, puisqu'à la dernière ronde il peut se passer un peu n'importe quoi.
Moi, je suis assez. J'aime le jeu en lui-même et je trouve qu'il faut être au top du début jusqu'à la fin pour jouer le nombre de parties et être le vainqueur. Je trouve ça très équitable puisque ça joue sur la durée. Donc, ça fait partie du sport, l'endurance. Hein, ça, c'est intéressant. Je pense que autant que le championnat individuel, je trouve ça bien que ce soit par élimination pour arriver au titre de champion du monde, que par équipe, je trouve ça assez bien de voir que c'est un peu dans le monde, un peu comme un open, on va dire, où il faut être bon du début jusqu'à la fin, où il faut pas de faiblesse. Je trouve que c'est un bon challenge par équipe. Peut-être que dans l'avenir, quand le jeu d'échecs sera beaucoup plus médiatisé et beaucoup plus développé à la base hein, dans les pays, dans beaucoup de pays, peut-être que ça fera le show, hein, comme on dit. Mais aujourd'hui, je pense que pour le développement et l'émancipation des joueurs professionnels aussi, il faut pas oublier, je pense que c'est important pour eux de jouer le nombre de rondes à des bons niveaux. Pour l'amélioration et aussi pour les fédérations, je pense que c'est encore important. On n'est pas assez mûr au niveau de cela pour, je pense, passer au stade justement par élimination. C'est du spectacle, mais aujourd'hui, il faut encore développer pas mal de fédérations dans le monde et arriver vraiment, comme beaucoup de sports, que le niveau monte. Et après, on pourra peut-être penser à cette étape-là. Je pense que dans l'avenir, oui, mais aujourd'hui, je pense que il faut continuer à développer le jeu d'échecs dans l'esprit, la chance pour tous jusqu'à la fin.
D'accord. Autre point pour en finir avec ça, puis après on va parler enfin de Capelle, bien sûr. C'est qu'est-ce que tu penses du développement des échecs féminins avec il y a eu l'avènement de Judith Polgar, bien sûr, qui a crevé tous les plafonds. Et puis aujourd'hui, ça suit, puisqu'on a Ouyi Fan qui est à presque 2700 Elo. Et puis derrière, on a quantité de grands maîtres femmes, alors qu'il n'y en avait presque pas avant. Comment tu suis ça?
Alors, c'est très bien. Moi, les échecs féminins, alors c'est déjà les échecs en lui-même, c'est un sport magnifique dans le sens où il y a la mixité déjà, que ce soit les jeunes, les anciens, les personnes à handicap peuvent jouer dans les mêmes tournois, peuvent s'affronter. Je trouve ça magnifique. Judith Polgar, c'est toute mon adolescence où j'ai vu Judith Polgar jouer contre les meilleurs du monde. Parce que faut le dire ce qui est, les échecs féminins, à part Judith Polgar à l'époque, étaient à un niveau bien en dessous et elle était largement au-dessus. Elle a arrêté, à part Ouyi Fan qui arrive à son niveau pour l'instant, le développement des échecs féminins très bien. Il y a encore un ton en dessous, mais je pense que c'est important de développer les échecs féminins dans une catégorie féminine, même si la mixité existe, pour justement mettre en avant et développer les échecs féminins. Parce que les échecs féminins, c'est comme tout sport. Ils ont un style de jeu, on va dire, différent hein, que les joueurs masculins. Quand on regarde, on va dire, elles sont plus prudentes comme dans la vie. C'est un peu un parallèle avec la vie de tous les jours. Mais les échecs féminins, je pense qu'il faut continuer à le développer, à le valoriser, à les pousser à jouer avec les hommes, mais aussi leur donner la possibilité de s'exprimer chez les femmes. Et Judith Polgar, je sais qu'elle continue, et elle, c'est pour développer les échecs aussi au niveau du scolaire. Hein, et en Hongrie, elle défend beaucoup ça, mais il faut encore essayer de démocratiser au niveau des échecs féminins, parce que dans les pays de l'Est, il y a beaucoup de femmes qui jouent, en Chine aussi, truc, mais en France, c'est pas encore assez. On a du mal en France à garder nos féminines quand elles arrivent souvent à l'adolescence. Et c'est dommage parce qu'on a vraiment des joueuses avec du talent, il faut dire ce qui est. Mais la base est encore assez, assez basse en Europe de l'Ouest, je dirais. Mais il faut continuer à persévérer, à mettre en valeur les échecs féminins, mais d'un côté, et non plus ne pas les opposer. La mixité, c'est bien, parce qu'elles doivent, elles peuvent se confronter, et je pense que ça fait aussi des images pour les futures championnes, hein, de jouer et de gagner des tournois mixtes, mais aussi comme le championnat du monde qui se monte à Lviv en ce moment en Ukraine, c'est important qu'elles ont aussi leur mise en valeur, hein, à juste titre, de leur niveau, de leur qualité de jeu. Et je pense que oui, femmes comme Judith Polgar sont des éléments moteurs pour développer et continuer à développer le jeu d'échecs féminin. Et dans la fédération française, je sais que nous avons une défenseuse, hein, c'est Madame Offangel, hein, qui sont activement les échecs féminins. Et il y a encore du travail, mais je pense qu'on est sur la bonne voie. Il ne faut pas séparer les deux, c'est sûr. Mais d'un côté, quand je dis séparer, c'est-à-dire il ne faut pas oublier, dire faut que de la mixité ou que développer les féminins. Il faut les deux, tout en mettant une mise en valeur des échecs, des tournois typiquement féminins. Et je pense que là, on va arriver à quelque chose de mûr d'ici en France, peut-être une dizaine d'années, mais je pense que le niveau français peut encore largement évoluer. Et on a une bonne équipe de France, et je sais que Mathieu Cornette s'en occupe, hein, actuellement, et qu'il continue comme cela, parce que l'équipe de France féminine elle a autant de valeur que l'équipe de France masculine, et il faut avancer sur tous les terrains pour développer le jeu d'échecs.
D'accord. Alors, on arrive maintenant à Capelle. Alors, on fera une pause musicale un peu plus tard, mais pour l'instant, on va quand même parler d'abord de cette édition 2016, et puis après, on reviendra sur la grande histoire de Capelle, et là, il y a beaucoup à dire après la pause musicale. Alors, Capelle 2016, moi, ce que j'ai noté, évidemment, c'est un boom échiquien très, très, très puissant cette année. Puisque outre, bon, bien sûr, la grande qualité habituelle, hein, de ce grand tournoi, c'est surtout on a vu la venue de Gata Kamsky, qui a été candidat au titre mondial, qui a échoué de peu d'ailleurs, hein, dans sa quête, en tout cas, de la finale. Il a eu une période où il était pas loin de pouvoir rivaliser avec le grand Kasparov. Il était à Capelle et il a réussi un magnifique tournoi. Alors, comment s'est passée cette édition 2016?
Cette émission 2016, c'est bien, très bien, puisqu'on a un tournant dans le tournoi de Capelle. C'est mon père, qui est fondateur, a passé le relais, et donc on a toujours fait un peu une coprésidence, un président de club et pour l'Open. Donc là, c'est Bruno Marchi avec moi-même qui mettons en place cette année l'Open 2016. Donc très bien passé, un relais qui est à la perfection. Je pense que les joueurs n'ont pas vu le relais dans l'organisation, puisque on est dans l'organisation depuis que on est tout jeune, donc c'était simplement une suite pour l'organisation. L'Open, hormis bon, les problèmes toujours récurrents, c'est de trouver les financements. Ça, c'est mon rôle au niveau de l'Open, et on y arrive sans problème, malgré les baisses de dotation d'État qui font que les institutions ont tendance à baisser leur manne financière, les sponsors avec la crise qui ont un peu déserté, mais qui commencent à revenir. Donc l'Open, on avait un peu peur pour ça, parce que ça faisait 3 ans qu'on traversait un peu des difficultés à trouver les finances. Cette année, on les a trouvées. Donc de ce côté-là, ça nous a rassurés, et ça nous permet de présenter un bon niveau pour Capelle, avec, comme tu le dis, Gata Gamsky présent à Capelle-Lavande. C'est magnifique, hein, avoir un candidat au titre mondial qui, comme tu dis, qui a perdu de peu en 96 contre Karpov, hein, qui est une figure des échecs, qui a joué le tournoi vraiment du bout en bout comme il faut. Je pense qu'il a jamais, été inquiété, mais il a été bon. C'est-à-dire gain avec les blancs, nul avec les noirs, vraiment constant du début jusqu'à la fin. C'est pas évident à Capelle de rester sur les 9 rondes au top, hein. Il y en a beaucoup qui sont essayés et qui n'ont pas réussi. Et Gata Gamsky, mais on a eu des figures comme Artur Yusupov, qui était là cette année, hein, qui est un monument des échecs, Kevin Spraguet, Miral Gourevitch, beaucoup d'anciens, mais aussi des jeunes. On est content, parce que Capelle, on a toujours cette envie de mettre les jeunes en avant. Et cette année, un petit Indien, Naïl Sarin, qui a fait une norme de MI à 11 ans. Donc c'est bon pour l'avenir des échecs. Je crois qu'il y a encore des grands joueurs qui arrivent dans les années à venir. Et pour Kabel, c'est une fierté parce que on est toujours sur le même principe depuis des années. Et l'organisation a été magnifique. Et l'avènement de Gatakonski à Kabel la Grande, c'est un nom qui restera marqué comme il faut dans notre almanach. Hein. D'ailleurs, en parlant de ça, on occupait de voir pour peut-être essayer de faire un livre sur l'histoire de Kabel la Grande. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à raconter et on reviendra plus tard, hein, comme tu l'as dit. Mais donc voilà, 2016, une réussite, une passation de relais entre mon père et Bruno Marchi pour le club en lui-même. Moi, ça fait déjà 14 ans que je m'occupe de l'Open d'échecs, donc je suis là en appui. Mais un très bon relais et une grande réussite pour nous.
Bravo, oui, effectivement. Pour cette magnifique édition et donc cette victoire hein, de Katakamski. Alors quand un joueur comme ça, de ce niveau-là, vient à Kapel, comment ça s'est passé? C'est l'organisation qui l'a invité ou c'est lui qui a décidé de venir en France?
Non, justement, c'est lui qui a demandé simplement les conditions. Et il était là avec sa copine, a priori, qui a demandé, sa compagne, Nebolsina. Je me trompe pas. Et ils ont demandé les conditions, on leur a présenté les conditions, puisque comme on fait avec tout le monde, on a les conditions selon le niveau des joueurs hein, et des joueuses. On leur a proposé simplement les conditions habituelles et il a accepté de suite pour venir à Kapel. Et il a même fait un bon petit discours après sa victoire au tournoi en félicitant l'organisation et que le tournoi était vraiment magnifique à ses yeux. Donc ça fait toujours plaisir d'entendre cela de joueurs comme Gatakonski.
Oui, tout à fait. Oui, c'est une belle reconnaissance par hein, effectivement une des légendes hein, du jeu, on peut le dire. Hein. Quelqu'un qui arrive à ce niveau-là, au niveau du mondial, forcément, rentre dans la légende du jeu d'échecs. Alors, si tu veux bien, Stéphane, on va faire une première pause musicale. Et puis, on va revenir juste après pour parler de la grande histoire, cette fois, hein, de Kapel la Grande. Et tu vas nous raconter tout ça, un tournoi donc qui a beaucoup à raconter et depuis de nombreuses années. Donc tout de suite, une pause musicale sur Fréquence Diagonale, on se retrouve juste après.
Thank you.
Nous voici de retour sur Fréquence Diagonale, toujours avec Stéphane Gouvard. Stéphane Gouvard, organisateur de Capelle Lagrande, le grand tournoi international français. Un des grands tournois, mais sans doute un des tout premiers grands tournois en France, dans le top 3, je dirais, maximum, et peut-être premier. C'est une question après de choix, de critères d'organisation. Alors, on a parlé de cette édition 2016, Stéphane, avant la pause, avec cette superbe victoire de Gata Kamsky, mais on a envie d'en savoir plus. Alors, Capelle-Lagrande, ça existe depuis quand? Ça a fait rêver des générations de joueurs. Moi, je me rappelle, quand j'étais jeune joueur dans la région Aquitaine, en Gironde, eh bien, mes copains qui me disaient être allés à Capelle et revenir les yeux plein d'étoiles, puisqu'il y a bien sûr des très grands joueurs là-bas. Alors, c'est depuis quand et quelle est l'histoire de Capelle? Quel est un peu son palmarès? Alors, peut-être pas tout le palmarès, parce que ça serait trop long, mais les grands joueurs qui sont passés à Capelle et qui ont réussi de belles choses, et des anecdotes, s'il y en a, bien sûr.
Oui, alors l'histoire de Capelle, je veux revenir vraiment à l'origine de comment les échecs sont venus à Capelle-Lagrande, parce que ça a son importance aussi. L'ENSU, c'était mon grand-père à l'époque qui était à Dunkerque en 1953, il était conseiller municipal et il a eu l'occasion de venir voir un tournoi d'échecs à Dunkerque. Et à l'époque, c'était très fermé les échecs, hein. C'était très élitiste, un peu aristocrate même, je dirais. Et donc, lui était ouvrier au port de Dunkerque, représentant syndical, et il avait demandé à apprendre à jouer aux échecs. Et on lui avait dit, moi, tu pourras, un docker ne saura jamais jouer aux échecs. Et il l'a pris au mot et il a dit, bah, j'apprendrai à jouer aux échecs, qui a appris mon père à jouer aux échecs par la suite. Hein, et donc, mon père a appris tous les enfants à Capelle, dans la voiture de mon grand-père à l'époque, à jouer aux échecs, après dans les MJC, pour mettre en avant le jeu d'échecs. Et en 1980, quand le Palais des Arts a été construit à Capelle, là où joue le tournoi, mon père a créé le club de Capelle-Lagrande, et où on a fait le franc-anglais, comme j'ai parlé tout à l'heure, la première rencontre, on va dire, internationale.
Oui.
Et en 85, l'idée est venue de créer un Open d'échecs après que l'Open d'Hasbrouck est arrêté et il n'y avait plus de tournois dans le Dunkerquois et un peu plus vers Lille. Il n'y avait plus de tournois et mon père a eu l'idée de faire un tournoi international où on a travaillé avec la FLGT à l'époque, puisque la ville de Capelle-Lagrande a toujours été très proche de la FLGT dans tous les sports. Et on a invité des délégations des pays de l'Est, hein, à l'époque. Donc les premiers qui ont répondu à l'invitation, c'est la Tchécoslovaquie, avec le club de Bratislava, mm-hmm. où ils sont venus dès le premier Open, et aussi des Polonais. Donc c'était une jeune Émie polonaise, Agnieszka Brusman, qui était venue avec son compagnon de l'époque, qui a gagné le tournoi, Anas Valdelmar, en 1985. Alors le tournoi était sur 7 rondes. Les deux premières années, le tournoi était sur 7 rondes, où on a eu 5 pays, où donc c'est Anas Valdelmar qui a gagné avec 6 sur 7. Et l'année suivante, on a réussi, avec nos liens avec la FSGT et la Fédération Sport de l'URSS, d'avoir deux grands maîtres soviétiques qui sont venus à Capelle. Donc c'était Smagin et Engor, hein, qui sont venus. Et là, on peut dire que ça a été une grande première, parce qu'il n'y avait, aucun grand maître, je me souviens, en France à cette époque-là. Et le seul maître, je crois que c'était Aldo Haïk, hein, qui était là-dessus. Donc c'était une première d'avoir, un, des grands maîtres, et deux, d'avoir des joueurs de l'URSS, hein, qui étaient très rares en Europe de l'Ouest à cette époque. Donc c'est Smagin qui a gagné le tournoi, et je pense que c'est ce qui nous a mis en avant Capelle-Lagrande, de voir des joueurs d'un tel niveau venir en Europe de l'Ouest. Et en 87, ça a commencé, donc où on a les Anglais qui sont venus, les Hollandais, les Belges, les Allemands. Donc c'est devenu vraiment un tournoi international, l'ENSU, en 87. Et aussi une grande nouveauté, en 87, avec notre arbitre principal, et qui était longtemps vice-président du club, c'est Jean-Claude Templeur,
ouais.
qui a proposé à mon père d'utiliser le système suisse accéléré dégressif, le système SAD, sur 9 rondes pour réaliser des normes. Donc c'était un challenge parce que c'était un système très peu utilisé, donc on ne savait pas ce que ça allait donner. Et c'est là qu'on a commencé à avoir des normes se réaliser à Cappelle-la-Grande, et les normes de grand maître et de maître. Et ça, ça a été c'est devenu une institution, les normes à Cappelle-la-Grande. On a eu jusqu'à 19 normes à Cappelle-la-Grande dans un même tournoi, ce qui est quand même assez impressionnant. Mmh. Donc ça, c'est une partie, je pense, un des tournants du tournoi de Cappelle-la-Grande. Et après, dans les années 90, on a commencé à passer à 300 joueurs, 400 joueurs. Le tournoi vers 94, je ne me trompe pas, 94 à peu près, est devenu, je pense, vraiment le plus grand tournoi en nombre de personnes déjà, de joueurs en France, hein, et même dans le monde, avoir plus de 500 à 600 joueurs, il n'y a pas beaucoup de tournois qui le font. Alors on marche différemment de beaucoup de tournois, parce qu'on nous dit souvent à Cappelle-la-Grande, les prix ne sont pas si importants que ça par rapport au niveau du tournoi. Mais pendant pas mal d'années, on a invité des délégations. Quand c'était encore l'URSS, on a invité les délégations. Même après, avec l'éclatement, on a invité les délégations par les fédérations qui nous ramenaient des grands maîtres, des maîtres, mais aussi des jeunes espoirs, comme la Pologne. La Pologne, chaque année, nous avons entre 8 et 12 espoirs polonais qui viennent jouer à Cappelle. Et une anecdote du président de la fédération polonaise, d'ailleurs, à ce sujet, quand on a été invité là-bas en Pologne, c'était Jean-Claude Templer avec sa femme qu'ils ont été reçus, parce qu'on pouvait pas, je pouvais pas y aller, mon père non plus, et qui nous ont dit que sur les 26 grands maîtres de l'époque, 23 avaient obtenu leur titre de grand maître à Cappelle-la-Grande.
Ouais.
C'est une reconnaissance, hein, pour une nation telle que la Pologne dans le monde des échecs, hein. Mais donc il y a eu ce côté reconnaissance des fédérations, qui ont toujours joué le jeu avec Cappelle-la-Grande pour venir. Avec l'éclatement de l'URSS en 92, les joueurs ont commencé à venir d'eux-mêmes. Donc ça a été aussi intéressant. On a eu des grands noms, hein, des échecs qui sont venus, et aussi des joueurs qui ont fait leurs armes aussi à Cappelle, parce que des grands noms, mais aussi des jeunes qui se sont fait connaître avec Cappelle-la-Grande. Alors le premier qui s'est fait connaître réellement avec Cappelle-la-Grande, c'est Alexander Morozevich. Quand il était non classé, qui a fait le festival, même dans les analyses, les grands maîtres étaient tous autour au bar pour regarder ses analyses. Ça a été un gros moment de voir un jeune de 14 ans impressionner des grands maîtres. Donc c'était quand même des anecdotes du tournoi assez mémorables. Mais on a eu Smyslov qui est venu.
Alors juste pour Morozevich, tu en parles, alors c'est dans ces années-là, effectivement, qu'il s'est fait connaître. Moi, je dois dire que c'est un joueur qui m'a toujours fasciné. C'est une petite anecdote aussi, moi je l'ai vu d'un jouer, alors je sais plus si c'était un trophée Mopar au Grand Prix Intel, mais enfin peu importe, pour moi c'est les mêmes tournois, organisés par Dan-Antoine Machapira dans les années 90, et je l'ai vu jouer un grand match face à Kasparov, et Kasparov a relevé le gant de Morozevich, qui avait un petit peu la réputation de jouer un peu dans le style des joueurs du 18e siècle, il jouait des gambits du roi, il jouait des choses comme ça, et Kasparov a accepté de jouer un gambit du roi, alors qu'il joue jamais E5, Kasparov, il joue toujours C5, et je me rappelle que donc on a eu droit à un gambit du roi exceptionnel entre Morozevich et Kasparov. Je vous dis pas le résultat, je vous laisse aller chercher la partie. C'était une très très grande partie, voilà, que j'ai pu voir. Donc voilà, Morozevich a pas réussi à devenir champion du monde ou même à atteindre les demi-finales ou la finale, mais c'est un joueur qui a marqué son époque par le fait qu'il a revivifié une ancienne façon de jouer aux échecs et qui a fait des parties brillantissimes et qui reste un joueur extraordinaire. Voilà.
Oui, donc une fierté à Cappelle, hein. Il est revenu quelques années plus tard où il n'a pas forcément fait un bon tournoi, mais après il a explosé au niveau mondial, mais ça c'est une des fiertés parce que il était vraiment un gamin, comme on dit, hein. Un gamin inconnu et qui venait avec un classement non classé à 2000 comme on mettait à l'époque quand on savait pas les classements, et c'était très sympathique. On a eu Levon Aronian aussi. Ouais. Qui est venu quand il était champion du monde des moins de 10 ans et qui est revenu quand il avait 2600, hein, juste avant de passer, arriver à exploser à 2700, où ça a été des bons moments parce que c'est des joueurs qui ont fait leurs armes à Cappelle. C'est des bons souvenirs et c'est aussi l'objectif de l'Open de Capelle. L'idée, c'est aussi d'inviter les jeunes pour qu'ils fassent des normes, qu'ils se confrontent aux grands maîtres. C'est une réussite et chaque année, on a cette chance-là, c'est d'avoir toujours des jeunes espoirs au niveau mondial qui viennent à Capelle en faisant des parties mémorables et qui accrochent énormément de grands maîtres, hein. Ça, c'est impressionnant. Après, on a les figures comme Smyslov, Geller qui sont venus, Youssoupov, bien sûr, Spraguette. Mais aussi impressionnant, et c'était aussi avec la victoire, c'est Anthony Mice. C'était Anthony Mice qui a gagné l'Open et qui est une figure, bien sûr, avec son excentricité qu'on connaît et sa façon de jouer. Ça, c'est des bons souvenirs de l'Open de Capelle en
Oui.
tant que fort joueur.
Alors, je crois qu'on peut citer pour les auditeurs qui ne connaissent pas Miles, c'est un joueur qui a été capable de jouer, je crois bien que c'est lui, hein, voilà.
A6 contre Karpov.
Voilà. C'est-à-dire, Karpov joue avec E4, le coup normal du roi, et Miles répond par A6,
A6.
le coup de
Et il a
dé...
gagné.
Et voilà. Et en plus, il a gagné la partie, c'est ça qui est
Il a
extraordinaire.
gagné la partie.
Ouais.
C'était quelqu'un qui est venu plusieurs fois à Capelle et un personnage attachant. C'était vraiment d'une simplicité dans son. Même s'il était excentré à côté. Après, c'était un homme vraiment facile d'accès et vraiment qui aimait Capelle-Lagrand, qui disait toujours que c'était un super tournoi. Tout comme Efim Geller. Efim Geller est venu deux fois, deux reprises à Capelle. Alors Efim Geller, c'est aussi un personnage des échecs. Hein, le seul joueur positif face à Fischer, c'est toujours intéressant d'avoir des figures comme ces gens-là qui sont passés par Capelle. Donc ça, c'est une fierté pour le tournoi, puisque on a eu en gros, par rapport au nombre de grands maîtres, hein, on a eu plus de 300, si je me trompe pas, je ne sais plus exactement, je vais pas dire de bêtises, mais plus de 300 grands maîtres différents qui sont passés à Capelle-Lagrande. Hein. On a déjà eu jusqu'à 100, 110 grands maîtres dans un seul tournoi à Capelle, je crois que c'était en 2000 ou en 2001, je ne sais plus. Donc c'est aussi une fierté d'avoir autant de grands maîtres à Capelle-Lagrande. C'est la fête des échecs. Alors on place toujours le tournoi de Capelle aussi, nous, depuis des années, c'est sous la bannière de la paix. Parce que quoi qu'il arrive dans le monde, nous, ce qu'on veut, c'est le nombre de nationalités. C'est-à-dire qu'il y a une nationalité forte avec les grands joueurs, mais aussi beaucoup de joueurs qui sont dans les petites nations. Mais on essaie de les inviter pour justement qu'ils découvrent justement le monde des échecs avec les grands joueurs, avec les grandes nations phares. Je m'en souviendrai toujours de ce moment émouvant. Quand je ne sais plus en quelle année, quand il y a eu le massacre à Hébron, où on avait des joueurs israéliens et palestiniens dans le tournoi, et que les joueurs étaient de Hébron d'ailleurs, leurs familles ont été malheureusement, certains de leurs familles ont été malheureusement assassinés, et tout le monde a mis le drapeau en berne, même les Israéliens. Et ça, c'est un moment fort du tournoi, au niveau, on ne parle pas de politique spécialement, mais c'est quelque chose qui m'a ému. Parce que c'est là qu'on voit qu'on est tous une même famille et c'est les échecs, c'est la devise des échecs. Et ce moment-là a été pour moi un moment vraiment émouvant durant Capelle-Lagrande. C'est une anecdote que j'aime en parler parce que je devais avoir 15-16 ans, si je ne me trompe pas. C'était quelque chose de fort. C'est là qu'on va au-dessus de ce qui se passe politiquement et c'est vraiment l'humain et la passion du jeu d'échecs avant tout.
Et le langage
Ça, c'est.
universel que représente le jeu d'échecs, qui est pratiqué dans le monde, partout dans le monde, et qui est une sorte de langage avec lequel on peut discuter échecs finalement avec quelqu'un sans parler la même langue.
Voilà, tout à fait. C'est assez simple et devant un échiquier, on se comprend et c'est ça qui est important. Et c'est ce qui est bien aussi dans les salles d'analyse comme à Capelle, c'est que on a toujours environ 50% de gens qui sont étrangers. Hein, il y a 50% de Français et c'est ça qui est assez sympa. C'est tout le mélange de langues qu'il peut avoir et cette diversité. Ça, c'est très très important pour nous. Et on y tient à l'image de l'Open. Après, nous, l'Open, c'est aussi dans les échanges, par exemple, à Capelle. Je sais que tu étais venu avec Pascal Villalba à l'époque de Nozai.
Oui, c'est
Hein, on
vrai.
s'était vu à Capelle. Après, nous, tous les joueurs mangent dans la même salle. hein, qu'ils soient grands maîtres, maîtres ou joueurs amateurs, peuvent manger sur place. Et ça, c'est un moment de convivialité que j'entends beaucoup de joueurs professionnels hein, dire on aime cette ambiance, cette atmosphère à Capel, parce que on mange tous ensemble, on peut discuter, on revoit des amis. Je sais qu'il y a certains qui se donnent rendez-vous à Capel pour voir des amis qu'ils n'ont pas forcément l'habitude de voir dans leurs déplacements. Et il y a aussi un côté entre l'amateur et le professionnel, c'est que tout le monde à Capel a les mêmes conditions de jeu, quoi. On joue sur le même échiquier, on a la même place pour jouer, qu'on soit à la table numéro 1 ou à la table 300, quoi. Et ça, c'est important aussi pour nous, montrer que le jeu d'échecs, c'est une grande famille, mais avec les mêmes conditions pour tous. Ça, c'est une des parties de Capel-la-Grande et qui fait aussi l'image et qu'on entend souvent les joueurs hein, le dire. Et ça, c'est très... Pour nous, à Capel-la-Grande, c'est très important et ça nous donne chaud au cœur. C'est ce qui nous motive chaque année pour continuer à réaliser ce tournoi avec autant de joueurs à Capel-la-Grande.
Alors, tu nous as parlé de Morozevic et du fait qu'il s'est révélé à Capel-la-Grande. Est-ce que tu pourrais nous donner quelques noms de grands maîtres, cette fois français, qui ont fait leurs premières armes à Capel ou qui ont réussi des normes importantes à Capel?
Alors on a Jean-Marc de Graaf. Alors, Jean-Marc de Graaf, c'est un ami, il a même joué au club. Hein. C'est le seul grand maître de la région Nord, Pas-de-Calais.
Oui.
Donc, qui a joué énormément de tournois, même si depuis quelques années, comme il ne peut pas jouer par rapport à son travail dans le Sud, mais il a fait ses normes de grand maître. Hein. À Capel, on a par exemple Jules Moussard qui a loupé sa dernière norme de grand maître à la dernière ronde contre Christian Bauer, mais qui a fait plusieurs normes à Capel. On a quand même pas mal, on a des joueurs qui sont venus faire leurs armes. Il y a Kevin Thérieux qui a fait une norme mais qui n'arrive pas avec son élo, mais on a Jean-Pierre Leroux, on a pas mal, on a Laurent Frayssinet qui a failli gagner le tournoi, je vais le dire, parce que même si c'est pas énorme, Laurent Frayssinet qui terminait premier ex aequo et qui n'a pas gagné le tournoi. Et je peux vous dire que nous à Capel, on fait un appel pour les joueurs français, on aimerait bien que le 33e Open, on a enfin un joueur français qui gagne Capel-la-Grande.
Ouais.
Parce qu'il n'a jamais eu un français qui a gagné Capel-la-Grande, c'est quand même pas mal, et on aimerait bien voir un jour un joueur français pouvoir gagner...
Alors, Laurent Frayssinet, tu dis premier ex aequo, finalement, c'est ça, hein, qui perd au départage, alors hein.
Voilà, il perd au départage, je me souviens plus c'était qui, j'ai pas retenu.
Alors, à noter que Laurent Frayssinet est un peu habitué, mais moins maintenant, mais il était beaucoup habitué aux deuxièmes places. Il avait fait beaucoup de titres de vice-champion du monde, notamment.
C'est vraiment Poulidor des échecs.
Un petit peu, mais ça s'est arrêté il y a quelques années, et il enchaîne maintenant les tournois. Il a gagné le Cap d'Agde cette année, il avait gagné aussi les tournois en Chine. Il a un peu changé le braquet. Il a gagné le titre de champion de France. Voilà, donc il est passé dans la catégorie. Oui, Eddy Merckx maintenant.
Très bien, et on l'attend à Capel. Je me souviens ces mots, il a dit je reviendrai pour gagner Capel. Donc je fais un appel à Laurent en disant Laurent, on t'attend toujours pour que tu gagnes Capel.
Et oui, c'est Terminator qui a dit I'll be back.
Donc voilà un peu. On a eu Étienne Bacro quand il était tout jeune.
Ouais.
Parce que on a un de ses premiers entraîneurs et un joueur du club qui s'appelle Mario Mancini qui fait les échecs dans les régions parisiennes aujourd'hui. Mais donc il était venu donc classement, je m'en souviens, c'était 13,90. Il avait déjà fait une performance à 1900, mais il est venu qu'une fois. Malheureusement, il n'est plus jamais revenu, mais il avait déjà montré ses talents. Il avait déjà impressionné, c'était en 90 à peu près, je crois, 90 ou 92, je ne sais plus.
D'accord.
C'est à peu près là qu'il est venu à Capel, mais il n'est plus jamais revenu malheureusement à Capel. Après, dans les joueurs français, malheureusement, il y a Mathieu Cornet qui avait fait un bon tournoi, je crois que c'est sa première participation, mais il m'a dit cette année, j'ai fait un bon tournoi et maintenant quand je vais à Capel, je perds 20 points. Mais on attend les joueurs français, c'est important pour nous d'avoir les meilleurs joueurs français quand même. Parce que c'est un tournoi français, il ne faut pas l'oublier.
Oui.
Même si on dit souvent qu'à côté de Dunkerque, on est plus en Belgique qu'en France, mais on est en France. Donc on aimerait bien voir un joueur français gagner Capelle-la-Grande, et pour l'image du tournoi, ça serait vraiment magnifique.
Oui, et puis ça fera sûrement une année spéciale avec un flash spécial sur Capelle. Ça viendra bien sûr tôt ou tard, puisque la France fait maintenant partie des meilleures nations du monde. Et ça, il devrait y avoir un moment où ça devrait se faire. Alors, tu nous as parlé de ce grand palmarès avec des anecdotes intéressantes. Alors, tu nous as pas encore parlé des joueuses à Capelle. Alors, est-ce qu'il y a eu aussi des grandes joueuses qui sont venues à Capelle?
Ah bah, on a eu Zhou Shen, par exemple, qui a été championne du monde.
Ouais.
Là-dessus, on a eu Almira Skripchenko, qui est venue pas mal d'années quand elle était encore moldave.
Oui. Hein.
Donc elle est venue, je pense, 3 ou 4 fois, Marie Sebag.
Oui. Hein.
Marie Sebag, on a eu... comment
elle s'appelle ? Qui a réussi des... Hein. Est-ce que Marie Sebag a réussi des normes à Capelle, ou elle était déjà...
Non, elle n'a pas fait de normes à Capelle.
Elle n'a pas fait de normes.
Je n'ai pas tout en tête là-dessus. Elle a fait des bons tournois, mais comme elle a fait le moins bon, mais elle est venue... plusieurs fois à Capelle. Ouais. Elle est venue plusieurs fois à Capelle, mais elle n'a pas fait de normes.
D'accord.
On a... En joueuse française, je crois qu'on a eu, j'ai pas en tête, mais on a eu quelques normes de maîtres, je crois, féminins.
Oui.
Mais on n'a pas eu, les Françaises n'ont jamais vraiment fait de grands tournois à Capelle, malheureusement.
Pour l'instant.
Elles ne sont jamais terminées première féminine.
D'accord.
Mais bon, à Capelle, on invite aussi énormément de joueuses féminines.
Oui.
C'est un grand maître masculin ou une grand maître féminine, on ne fait pas de différence, c'est un grand maître.
Ouais, d'accord.
Donc là-dessus, on a eu Nino Batiashvili, on a eu la sœur de Mujiciuk, là. Enfin, je ne sais plus, c'est Anna, c'est pas celle qui joue au championnat du monde, c'est sa sœur. on a eu pas mal de joueuses quand même, Daniel Yann, on a eu des joueuses de très bon niveau, hein, à Capelle. Après, on a eu la championne de France de plusieurs années, Nino
Maizouradze.
On a eu vraiment des bonnes joueuses à Capelle. Là, cette année, c'est Démantée Dolité qui est terminée première féminine. Mais après, on essaie d'inviter vraiment les féminines. On a Antoinetta Stefanova, vraiment des bons niveaux. Mais
Antoinetta aussi, après, Stefanova est venue, qui a été championne du monde aussi.
Oui.
Oui, donc c'est...
comment elle s'appelle, l'Ukrainienne, qui était aussi championne du monde, j'ai oublié son nom, on a eu quand même pas mal de fortes joueuses, et quand elles demandent, on essaie de les inviter au mieux. Donc les féminines sont importantes pour le tournoi de Capelle, comme je le disais tout à l'heure au début, les échecs, que ça, en mixité, c'est important aussi, et donc elles ont entièrement leur place comme les hommes dans un tournoi à Capelle-la-Grande.
D'accord. Alors, et en termes de période d'organisation, Capelle-la-Grande, tous les ans, c'est les mêmes dates à peu près.
Oui, alors on nous reproche, j'ai vu sur Par exemple France Échec, on dit par rapport à l'Île-de-France, les vacances. Alors on fait toujours la deuxième semaine des vacances scolaires en février, les vacances d'hiver,
ouais.
Dans notre zone géographique, hein, parce que il faut une semaine et on doit préparer la salle la semaine avant, et on a beaucoup de gens qui sont dans l'éducation nationale. Donc c'est plus facile pour nous pour organiser le tournoi la deuxième semaine, pour mettre la salle en place, hein, parce qu'on a une soixantaine de bénévoles qui aident à mettre la salle et toute la semaine à aider pour que ça soit le mieux possible, la meilleure organisation possible, et que les gens sont le mieux accueillis. Donc voilà pourquoi on fait toujours la deuxième semaine des vacances scolaires, et que les dates bougent en fait. Hein. C'est uniquement par rapport à cela qu'on bouge la date de l'Open en fait.
D'accord, donc c'est important pour les auditeurs qui veulent penser à Capelle 2017 de déjà marquer ça dans leur calendrier. Deuxième semaine des vacances de février, hein, c'est ça. Hein.
Voilà.
Donc il faut vérifier sur. Alors il y a un site, bien sûr, il y a le site de Capelle.
Oui, alors le site, on est occupé de voir pour refaire un site, parce qu'il est vraiment plus comme il faut. Il faut qu'on l'alimente, parce que ça, c'est notre faiblesse, la communication sur ça, sur le site. Et on va s'y atteler pour que 2017, on a un site à la hauteur du tournoi et qui soit mis à jour régulièrement.
D'accord. Alors moi, on peut en parler un peu d'informatique. J'aime bien en parler aussi. On en a parlé dans d'autres émissions. Alors, le mieux pour avoir un bon site aujourd'hui, c'est d'utiliser ce qu'on appelle un content management, et si possible, un content management system. On appelle ça CMS. Hein, voilà. Libre, ça veut dire sous licence libre, ça veut dire le code est publié, donc ça permet de s'assurer qu'on peut contrôler entièrement son système informatique. Et il y en a deux qui sont bons, il y a Joomla, mais aussi surtout, je pense, WordPress, qui est encore mieux aujourd'hui, je pense qu'il tient le haut du pavé. Voilà, qui permet d'installer un site assez joli en très peu de temps. Alors, faut quand même faire du travail graphique derrière si on veut y mettre ses propres images et propres couleurs. Je pense que pour un tournoi de Capelle, c'est bien d'avoir une image graphique à soi. Mais voilà, mais enfin bon, après évidemment, vous ferez les choix que vous voulez, mais je pense que c'est une bonne solution d'aller vers les systèmes libres plutôt que des solutions faites à la main, puisqu'on profite du travail de toute une communauté de développeurs. Et donc c'est quand même plus convivial aussi, puisqu'on peut avoir des aides plus facilement, trouver plus facilement des aides quand il y a des problèmes qu'on veut résoudre. Voilà, donc c'est ce que fait d'ailleurs la fédération maintenant, puisque je crois que tous les sites fédéraux, alors pas le site fédéral central, mais les sites qui sont dédiés aux événements, que ce soit championnat de France jeunes, championnat de France toute catégorie, maintenant, ce sont des WordPress, justement. Voilà, bon.
Ah, je notais, je
Voilà,
notais.
petite. Voilà.
Merci pour l'info.
Voilà. Et
Donc,
alors.
par contre aussi pour parler de Cappelle-la-Grande,
Ouais.
nous avons fait un documentaire d'ailleurs qui est sur, je l'ai mis sur Facebook et sur YouTube en 2011.
Ouais.
C'était la victoire de Kajewski, exactement, en Pologne, mais qu'on avait fait un reportage montrant l'Open, son organisation, son origine, et en même temps montrant les joueurs en deuxième temps, les joueurs dans leur tournoi, et comment ils ressentaient Cappelle-la-Grande. Ça dure 45 minutes. Et je sais que ça, je l'ai mis il n'y a pas longtemps, il y a une semaine, sur mon site, sur mon mur Facebook, je l'ai mis sur YouTube. Et pour ceux qui veulent voir un peu l'atmosphère de Capelle et les origines, comment est venu le tournoi, il suffit d'aller sur mon mur ou sur YouTube pour voir Cappelle-la-Grande, documentaire réalisé par Elsa Ramirez, qui fait de très bons documentaires, qui avait fait même une vidéo au championnat du monde, c'était Annan contre Kramnik, je crois. Je sais plus, en Allemagne.
D'accord. Donc
voilà voilà
une vidéo qu'il faudra absolument mettre dans la galerie vidéo de ce nouveau site
voilà on va
alors.
la mettre aussi sur le site,
Voilà.
pas de
Donc,
souci, pour montrer un peu
pour qu'on puisse.
l'atmosphère de Capelle et ses origines.
Voilà. Alors Cappelle-la-Grande est repris dans les sites internationaux. Vous publiez les parties, en tout cas les premières tables depuis longtemps.
Ouais, on a acheté à l'époque, j'avais trouvé une subvention pour acheter des échiquiers sensitifs
Ouais.
et renouveler et mettre passer à l'électronique pour les pendules.
Ouais.
Donc c'est pour ça qu'on a pu passer aux pendules électroniques rapidement et avec les échiquiers sensitifs. Donc on a cette année on a 10 échiquiers en partie en direct. Donc on espère on peut aller jusqu'à 20 et on mettra 20 l'année prochaine. Si on peut en avoir plus, ça serait bien, parce que je pense que je retrouve à 30, les 30 premières tables à Capelle, c'est du très bon niveau. Donc on peut aller jusque-là. On essaie de moderniser et le site est important aussi pour relayer les parties,
Ouais, tout à fait.
tournois.
Ouais.
Et ça, c'est le côté financier en plus. On est toujours juste le tournoi. On essaie de faire du mieux qu'on peut. Mais c'est quand même un gros budget et c'est jamais facile de développer, de trouver des moyens financiers supplémentaires pour améliorer ce côté-là. Ça, c'est un des enjeux dans les 2 à 3 années à venir auxquels je m'y attelle pour améliorer notre communication.
D'accord. Donc voilà. Alors, on va arriver à la dernière partie de cette émission, de cette extraordinaire émission, hein, sur ce très très grand tournoi qui est Cappelle-la-Grande. Stéphane, c'est bien sûr, on va parler un peu de l'avenir, parce que donc tu viens d'en parler un tout petit peu, tu parles de cette amélioration de la communication, tu es sensible à ça. D'ailleurs, alors il y a eu un article qui est paru cette année sur le site de la Ligue de Corse, où tu as accordé une interview. Et tu as un peu déploré le manque de retombées, je crois, médiatiques cette année, notamment le manque de suivi. Tu as un peu regretté le manque de suivi un petit peu de la fédération, enfin en tout cas du site fédéral sur Capelle. Alors je crois qu'ils ont quand même depuis un peu corrigé le tir, puisqu'ils ont fait un article pour la victoire de Kamski. Donc, qu'est-ce que tu pourrais dire sur ce point-là et sur l'avenir de Capelle dans les années qui viennent?
tout à fait. L'article est sorti 2 jours après l'interview sur le site Corse. Donc, tout compte fait, merci à Léo Battesti de m'avoir proposé cette interview, puisque, comme par hasard, 2 jours après, on a eu justement la tribune pour parler un peu de tournoi. J'ai par exemple déplorable de pas avoir pour la fédération, je dirais simplement, quand Christian Bauer était seul en tête à mi-tournoi, ça aurait été quand même bien que le champion de France avait sa place sur un article de la fédération. On demande pas que la fédération elle met en avant Capelle Lagrande tous les jours, mais simplement je trouve que c'est un petit peu déplacé de ne pas parler tellement du tournoi de Capelle Lagrande comme puisqu'il parle des autres tournois. Donc moi à l'INSU, d'un côté on me dit oui, j'étais sur la liste d'Adéo Battesti aux anciennes précédentes élections, mais on n'empêche pas la fédération de communiquer sur le tournoi, contrairement à ce qui peut se dire, hein. S'ils ont envie de venir, ils viennent, on n'a interdit personne. Simplement, c'est que on appelle des gens du club et on passe pas par les deux coprésidents, par exemple. Donc je trouve que c'est un peu déplacé de la fédération, de l'INSU, et qu'on s'est oublié les noms des organisateurs du tournoi et oublie des noms quand on parle d'organisation de tournoi. Je trouve ça inintéressant et j'ai pas envie d'en parler plus, mais ils ont rectifié le tir, c'est bien. Il faut continuer à parler des échecs, des événements sportifs qu'il y a en France. C'est important, car les organisateurs passent beaucoup de temps pour organiser leurs tournois dans toute la France, que ce soit du rapide ou des parties longues, et je pense qu'il faut communiquer là-dessus, parce que les joueurs d'échecs ont besoin d'avoir des informations, et tout le monde, comme tu disais tout à l'heure, tout le monde ne connaît pas forcément quand on commence à jouer Capelle Lagrande, ou je vais parler du Corsican Circuit Tour, qui est un tournoi rapide super intéressant aussi et de haut niveau, mais des tournois comme Rochefort, Nancy, il faut parler des événements, il faut les mettre en avant, c'est pour le développement des échecs, et il faut encourager les gens à se porter vers l'organisation de manifestations. C'est comme ça qu'on développe une fédération. C'est comme ça qu'on devra développer le jeu d'échecs, et ça, c'est pour moi, c'est primordial. Donc voilà, après l'avenir du tournoi de Capelle, en revenant à c'est simple, hein, continuer à avoir un bon niveau, toujours autant de joueurs, toujours autant de nations, toujours dans le même esprit, hein, l'Open sous la bannière de la paix, et c'est ça le plus important pour nous, c'est que le tournoi ne perd pas son âme du début, qui a été fondé par mon père, Michel Bouvard, pour le bien des joueurs d'échecs, mais aussi pour la renommée aussi de notre ville de Capelle-Lagrande, qui voilà. Nous tient énormément.
Et alors, et toi-même, alors ton avenir, tu vas continuer à t'occuper de près de l'Open de Capelle-Lagrande, tu vas pas partir sous d'autres cieux?
Moi, l'Open, l'organisation, comme je l'ai dit, moi, je m'occupe surtout à chercher les fonds.
Oui.
Et aussi essayer d'améliorer la partie, cette partie de communication. Donc, on va dire, je travaille plus sur l'extérieur que sur la mise en place, on va dire, des tables. Et je me suis occupé pendant pas mal d'années aussi des invitations des joueurs. Grands maîtres et maîtres, donc là on se partage le travail, mais Capelle Lagrande, non, je l'oublierai jamais. C'est aussi une fierté familiale d'un petit tournoi de 68 joueurs en 85, arriver à un tel monument, parce que je le considère comme un monument des échecs, parce que 32 Open dans la durée, c'est pas mal, dans le niveau, dans le nombre de joueurs. Je pense que c'est quand même un événement majeur du calendrier international, je pense. Hein.
Ouais, tout à fait.
Des échecs au niveau Open. Donc maintenir cela, je continuerai à travailler pour l'Open de Capelle. Et après, d'autres cieux, on va dire, il y a des choses qui me font peur actuellement pour le bien des échecs en France. Et je pense qu'il faut réagir là-dessus. Et il n'est pas improbable. Voir être un acteur pour la fédération dans les années à venir.
Ah, voilà, donc ça c'est une information, oula, donc une information politique de première main, pourquoi pas avoir Stéphane Gouvard au niveau fédéral, en tout cas apparemment, donc ça, tu n'exclus pas cette possibilité.
Alors, n'exclus pas, non.
Voilà. Donc t'as pas dit oui non plus, mais bon, voilà, t'y penses apparemment un peu.
On en parle, on n'est pas tout seul, c'est une équipe
Ouais.
qui sera derrière. Il faut, c'est pas anodin, mais avec ce que les dernières informations qu'on entend, il y a des choses à prendre au sérieux pour le bien des adhérents de la Fédération française et des échecs en France.
D'accord. Voilà, une exclue, enfin une quasi-exclue, hein, parce que t'en avais déjà un peu parlé sur le site de Corse, hein, de la Ligue de Corse, hein, je crois bien, de cette histoire-là. Bon, voilà, une exclue, disons, de seconde main sur Fréquence Diagonale. Mais en tout cas, on a eu l'exclusivité d'avoir Stéphane Gouvard, organisateur du Grand Open de Capelle-la-Grande, donc avec le fondateur, tu nous as parlé de ton père, Michel, qui a fondé et organisé aussi ce grand rendez-vous international pendant des années. Voilà, on est très très content de t'avoir pour la première fois sur Fréquence Diagonale pour parler donc de ce grand événement français sur Fréquence Diagonale. Voilà, on s'intéresse aux organisateurs et on s'intéresse moins à la technique, on s'intéresse plus à ce qui se déroule au niveau de l'organisation du jeu, au niveau de son développement. On a aussi des joueurs, mais qui parlent plus de leur côté carrière que de technique. On a eu Maxime Maffei-Lagrave, on a eu Laurent Fraissinet. Voilà, on a des grands joueurs qui rejoignent l'antenne pour parler du jeu d'échecs un peu autrement. Merci beaucoup, Stéphane.
Oui, bah merci. Et comme je dis, on est deux pour l'organisation du tournoi. Il y a moi, bien sûr, et Bruno Marchi qui prend le relais du club d'échecs avec qui on travaille en parfaite harmonie. Donc c'est un nom à pas oublier parce que le tournoi continuera grâce à notre duo. Et c'est un grand challenge aussi pour lui de succéder en duo à mon père. Donc je veux le mettre en avant et aussi profiter de le féliciter à la radio pour ce relais de 2016. Parce que je peux vous dire que c'est une grande réussite. Ça nous faisait un peu peur de partir dans cet inconnu, même si le président fondateur Michel Bouvard était derrière. C'était une expérience importante pour voir comment ça allait dans les années à venir.
Voilà, exactement. Donc, ben voilà, il faut se lancer à un moment donné, il faut faire les choses. Alors, bravo aux organisateurs en France, bravo à l'Open de Capelle-la-Grande, bravo à vous pour continuer cette belle aventure, ce très grand tournoi qui fait le bonheur des joueurs d'échecs chaque année depuis, tu l'as dit, depuis 30 ans. Merci de nous avoir suivis sur cette émission spéciale Capelle-la-Grande avec Stéphane Gouvard. Et je vous donne donc rendez-vous une prochaine fois sur Fréquence Diagonale. Je vous laisse avec notre générique fétiche, Broken Embraces. Au revoir.
Au revoir.